Frères et sœurs, je vous propose de poursuivre la lecture de l'Évangile selon Jean que mon collègue le pasteur Marc Pernot a entreprise hier. Et nous voici donc en ce matin de Noël au chapitre 2. Je vous lirai les premiers versets de ce chapitre 2. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte ». Car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie, quant à elle, conservait toutes ces choses et elle les méditait en son cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. C'est dans notre recueil de chants, louanges et prières que je vous invite à chanter ce cantique qui parle si bien de Noël, ce cantique que nous avons tant de plaisir à chanter. Le cantique 101, les strophes 1, 2 et 3 qui parlent ce peuple fidèle. Levons-nous pour chanter Dieu. Éternel, notre Dieu, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir et de pouvoir partager ta parole, comme on partage le pain entre nous, en famille ou entre amis. Chers frères et sœurs, on a coutume de dire que Noël a une portée universelle. Malheureusement, il apparaît que ceux qui disent cela le disent souvent avec des accents d'impérialisme, parce qu'ils considèrent que le christianisme est supérieur à toutes les autres formes de religion et que, par conséquent, cet événement si important pour la foi chrétienne s'impose ou doit s'imposer à tous, nécessairement, et de manière tout à fait irrésistible. Noël est-il universel ? À vrai dire, je le pense, mais pas pour cette raison d'un impérialisme légitime. Ce n'est pas non plus parce que tout commence par un acte de portée universelle, à savoir le recensement du monde entier, rien de moins, par César Auguste. La preuve, c'est que si ce recensement du monde entier avait été aussi important aux yeux de l'évangéliste Luc, eh bien la moindre des choses aurait été d'en communiquer les résultats. Combien d'habitants ? Combien d'hommes et de femmes ? Combien d'enfants ? Combien de chômeurs ? Nous n'en savons rien, parce que ce n'est pas cet acte qui pourtant se voulait universel qui compte. Pour tout vous dire, et c'est là certainement que je me ferai quelques ennemis, il me semble que ce n'est pas non plus ce que tout le monde s'accorde pourtant à considérer comme le fait central, à savoir la naissance de Jésus. La naissance, voilà bien pourtant une expérience assez bien partagée à travers le monde entier. Alors oui, bien sûr, je ne récuse pas le fait qu'il est important que Jésus naisse, et à vrai dire, là aussi, cet acte est même tout à fait décisif pour la suite de l'histoire, j'en conviens. C'est aussi important pour l'histoire que la Bible raconte que pour la prédication chrétienne, d'accord. Mais observez à quel point la figure de Jésus est tout à fait secondaire, pour ne pas dire insignifiante, dans ce récit de l'évangile de Noël. Certes, nous apprenons qu'il y a un enfant qui naît, qu'il est emmailloté, qu'il est placé dans une mangeoire, et puis c'est tout. À rien de plus, à vrai dire. Le récit de Luc ne tourne pas autour du petit Jésus, dont nous ne savons rien. C'est dans l'épisode suivant, d'ailleurs, que, lorsque viendra le jour de la circoncision, qu'il sera confirmé que son nom est Jésus. Pour l'heure, c'est juste le premier-né de Marie. Aussi curieux que cela puisse paraître, Jésus n'est pas au centre de ce récit. Et il me semble que le premier enseignement à tirer, c'est que Noël n'est pas d'abord l'anniversaire de Jésus. Ce qui, dans une certaine mesure, est assez heureux, puisque ce n'est certainement pas le 25 décembre que Jésus est né. Mais cela signifie bien plus. Cela signifie par conséquent que même ceux qui n'ont pas d'enfants, que même ceux qui n'ont pas de projet parental, peuvent célébrer Noël, ce qui est également heureux pour eux. Alors qu'y a-t-il donc d'universel dans cette histoire ? Eh bien, il me semble que cette histoire a un caractère universel par la mise en scène que l'évangéliste Luc déploie. S'il y a un caractère universel à cette histoire, si Noël concerne l'ensemble de la société des hommes, c'est parce que l'intégralité de cette société y est exposée et mise en scène. En effet, si nous regardons tout ce qui compose cette mosaïque de Noël, eh bien nous découvrons que tout ce qui régit le monde, d'une façon ou d'une autre, est ici représenté dans une sorte de crèche qui aurait beaucoup intéressé un certain Georges Dumézil. Georges Dumézil, ce brillant universitaire qui a mis en évidence les trois fonctions principales qui gouvernent le monde, qui gouvernent l'ensemble des sociétés humaines, les trois fonctions autour desquelles s'organise toute communauté humaine qui cherche à se structurer pour durer. Ces trois fonctions, justement, nous les retrouvons dans ce texte. Il y a tout d'abord ce que Dumézil nomme la souveraineté magique et juridique. C'est ce qu'on appelle habituellement la classe des prêtres, les hommes de Dieu. Ici, ce sont les anges. Il y a ensuite la force physique, principalement guerrière, incarnée ici par César et le gouverneur Quirinius. Il y a enfin, toujours selon Dumézil, observant l'ensemble des textes fondateurs des civilisations, la richesse tranquille et féconde que sont les éleveurs, les agriculteurs, incarnés ici bien sûr par les bergers. Ange, César, berger, voilà qui constitue l'ensemble par lequel le monde est mis en ordre. Grâce à ces trois fonctions, le monde est en ordre de marche selon les règles humaines. Il y a donc à lire dans cet évangile de Noël, cet évangile selon Luc, que l'univers est bel et bien convoqué au chevet de Noël, au chevet de l'événement par lequel Dieu reprend la main dans l'histoire des hommes. Et c'est là une manière de dire que c'est bien l'univers tout entier qui est concerné par ce qui se passe par cet événement qui se déroule dans un petit coin du monde. Et que se passe-t-il justement pour ces trois forces sans présence ? Eh bien, il se passe qu'une quatrième surgit. Une quatrième intervient. Dieu suscite une quatrième figure. Dieu suscite une quatrième figure qui vient bousculer l'ordre établi, qui vient déranger un peu l'ordre qui pourtant préside dans toutes les sociétés humaines un tant soit peu structuré. Ce n'est donc pas Jésus, ce quatrième homme, lui dont je vous ai dit qu'il semblait être plutôt au second plan de la narration, ce quatrième homme, c'est Marie. Marie qui ne se contente pas d'accoucher. Marie qui ne se contente pas de prodiguer les soins nécessaires à son fils premier-né. Marie, nous rapporte l'évangéliste, regarde aussi tous ces événements en les méditant en son cœur. Je n'ai pas osé vous lire ce qui est écrit dans notre traduction, car il est écrit que Marie repasse toutes ces choses dans son cœur. Et les esprits un peu trop machistes y voient là la justification d'une place confiée à la femme qui n'est pas du tout ce que l'Évangile veut dire. Littéralement, Marie symbolise en son cœur. Elle conjecture, elle jette ensemble, elle symbolise. Que fait Marie ? La figure du croyant qui se dessine depuis le premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Marie, cette figure que le pasteur Marc Pernot a commencé à dessiner avec beaucoup de délicatesse hier soir, eh bien Marie se pose et elle interroge. Elle interroge le cours des événements en les méditant en son cœur et elle pose en quelque sorte cette question « Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ?» En intégrant cette quatrième figure au sein de la triade prêtre, guerrier, éleveur, l'évangéliste Luc souligne que Dieu fait surgir dans le monde et pour le monde une autre figure d'autorité qui interroge le monde entier avec cette question « Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ?» C'est bien sûr la question du sens, c'est la question de la raison. Vous savez, le cœur dans la Bible, c'est le lieu de l'intelligence, c'est le lieu de la réflexion. On peut d'ailleurs parler à juste titre de l'intelligence du cœur. La tête, elle, est plutôt utilisée pour évoquer la colère. Si vous chauffez le nez à quelqu'un de l'autre côté de la Méditerranée, cela signifie que vous le mettez en rogne. Et c'est la raison pour laquelle, d'un point de vue biblique, mieux vaut un coup de cœur qu'un coup de tête. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Se demande Marie, faisant rejaillir du même coup cette question sur tous ceux qui interviennent dans cette histoire. Et toi, César, pourquoi organises-tu ce recensement ? Ce qui est quand même assez mal vu dans la Bible. Recenser, c'est se compter, c'est se définir définitivement, c'est se délimiter, c'est se circonscrire. Alors César, crois-tu vraiment que tu peux savoir qui est ton peuple en traçant le contour à un moment donné ? On peut compter les morts. Mais est-il vraiment possible de compter les vivants ? Est-il vraiment possible de dénombrer le vivant qui, par définition, est toujours en train de croître et de se propager ? Dans la Bible, les listes sont soit interdites, soit fausses. Les chiffres sont toujours gonflés pour ne pas limiter les places. Les généalogies sont truquées pour qu'il y ait toujours de la place pour l'étranger qui arrive. Contrairement à ceux qui font porte close, parce qu'ils considèrent que la liste est close et que le numerus clausus est atteint. Alors voilà, Marie pose la question du sens aux responsables de l'ordre du monde, à commencer par celui qui gère la force. Quel sens donnes-tu à ce que tu entreprends ? Quels sont tes véritables objectifs? Agis-tu pour le bien de tous ou cherches-tu en fait à mieux asseoir ton pouvoir pour exercer un contrôle plus grand et, ce faisant, autoriser une forme de violence d'État? Ou encore, n'agirais-tu pas pour tes intérêts personnels? Mais Marie ne se contente pas d'interroger la force. Marie interroge aussi les hommes de Dieu. Et toi, l'homme de Dieu, qu'est-ce qui te pousse à parler ainsi au nom même de Dieu? Et qu'est-ce qui te pousse à chantonner sur les places publiques? Et qui sers-tu au juste? Es-tu de ceux qui savent mieux que Dieu ce que Dieu espère? Es-tu du genre à dire aux autres ce qu'ils doivent penser et faire? Te frottes-tu les mains de satisfaction quand on t'obéit et que la masse des fidèles te répond comme un seul homme « Amen » Es-tu du genre à répéter à l'envi les formules religieuses toutes faites, bien huilées? Ou es-tu plutôt du genre à aider tes contemporains à décrypter les signes des temps pour repérer les choses vraiment importantes, ce qu'il ne faut pas manquer, ce qui compte vraiment? Et toi, le producteur, ton cœur, pourquoi bat-il? Parce que tu produis plus que l'an passé? Parce que tu engranges et que tu engranges encore? Parce que tu fais des bénéfices à deux chiffres? Qu'est-ce qui te motive au juste? Et toi, ton cœur, pourquoi bat-il? Es-tu l'un de ces forcenés du productivisme qui en fait toujours plus et qui en veut toujours plus, qui veut plus de récoltes, plus de productivité, plus de rentabilité, plus de débit Internet, plus de puissance électrique, plus de gigaoctets, plus d'écrans plats, plus de livres vendus, plus de tout ce que vous voulez? Marie, en son fort intérieur, qui déborde largement sur le monde entier, enjoint tous les tenants de l'ordre, tous ceux qui font quelque chose dans la vie, à se poser la question du sens. Donner du sens à ce que l'on fait, c'est éviter de devenir une sorte de technicien dans son domaine, qui agit froidement, sans se soucier des conséquences ni de l'avenir. La question du sens, c'est éviter de devenir cette personne sans humanité qui agit sans conscience, de façon tout à fait mécanique, à la manière d'un automate programmable qui, le moment venu, au temps des problèmes, au temps du malheur, dira qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire, qui répondra qu'il n'a fait que ce qu'on lui a demandé de faire, que ce n'est pas sa faute, qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu? Se demande le croyant, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa situation, quel que soit son âge. Oui, le croyant réfléchit au sens de son travail, au sens de ses études, au sens de sa scolarité, au sens de ses loisirs, au sens de ses relations. Car c'est en réfléchissant à ce que l'on fait qu'on fait progresser les lumières et donc que l'on fait reculer les ténèbres, l'obscurantisme. Noël, c'est un peu plus de pensée dans ce que nous faisons. C'est un peu plus de lumière et donc un peu moins d'obscurité, grâce à Dieu qui suscite des maris, qui suscite des croyants qui pensent, qui réfléchissent. Mais le cœur, bien entendu, ce n'est pas que le siège de la réflexion et de l'émotion raisonnable. Le cœur est aussi ce qui fait circuler le sang dans notre corps. Le cœur est donc ce qui nous permet de nous animer, de nous agiter, d'agir. Le cœur, c'est ce qui nous autorise à nous mettre en mouvement. Plus votre cœur est performant, et plus vous pouvez vous-même accomplir de grandes performances. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Ce n'est donc pas simplement réfléchir au sens de notre vie, mais découvrir ce qui nous fait vivre, découvrir ce qui nous appelle à la vie. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Et qu'est-ce qui me fait veiller le soir encore ? Qu'est-ce qui me bouge ? Qu'est-ce qui me mobilise ? Marie, qui médite en son cœur, se demande certainement ce qui a mis les bergers en route. Elle se demande probablement ce qui provoque ce déclenchement de louanges tout autour de sa famille. Elle se demande certainement ce qui provoque cette formidable espérance qui parle de paix. Certainement, de ce point de vue, l'attitude des bergers est la plus exemplaire, la plus significative. Une fois que les messagers divins ont délivré leur message de paix, ils se mettent en route. Et là encore, nos traductions sont d'une pâleur accablante parfois. Elles font dire à ces bergers « Allons à Bethléem », comme s'il s'agissait d'aller faire un petit tour, une sorte de promenade de santé, une promenade digestive peut-être. « Dieltomen », disent les bergers selon le texte grec, ce que la Vulgate a correctement traduit en latin par « transeamus ». Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'aller faire un tour, mais de traverser, de franchir. L'évangile de Noël rend les bergers qui étaient au repos avec leurs troupeaux, il les rend capables de franchir les obstacles qui risquent de barrer leur route, capables de franchir tous les obstacles. L'évangile de Noël rend les bergers capables de surmonter tout ce qui pourra se dresser sur leur chemin et éventuellement s'opposer à leur projet. L'évangile de Noël rend les bergers capables de rejoindre un au-delà, de traverser, d'aller au-delà, de franchir. Transeamus, disent les bergers qui sont stimulés par Dieu au point que rien ne saurait les arrêter. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Pourquoi bats-tu au point que je me sens rempli de cette puissance de vie irrésistible, qui bat au point que je sens bien que je suis capable de ce qui au départ me semblait insurmontable ? Pourquoi bats-tu de telle sorte que je me rends bien compte qu'il y a plus à vivre que j'imaginais, que je vais être capable de traverser mes craintes, mes hésitations et mes peurs, et d'aller au-delà, de rejoindre un horizon que je n'osais même pas espérer. Et toi, mon cœur, pourquoi bats-tu ? Noël, c'est cet appel à la vie qui est signifié par la naissance d'un petit enfant, certes, mais c'est un appel qui concerne chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quelles que soient les difficultés qui nous assaillent et qui nous semblent peut-être insurmontables pour l'heure, indépassables. Noël. Noël, c'est Dieu qui vient faire battre le cœur du monde, parce que Noël, c'est Dieu qui vient faire battre notre cœur. Amen.